Bon matin tout le monde. Alors, je vous invite à tourner dans 1 Jean chapitre 4, s'il vous plaît. Alors, 1 Jean chapitre 4, oh, il est allumé. Il est sur vert. Testing, 1, 2. Hello. Comme ça. Il me semble que ça sort. Oui, c'est bon. Merci. Alors, All You Need Is Love, ce que vous venez d'entendre, une chanson des Beatles, et une chanson qui a eu un succès. Écoutez, c'est une chanson qui a été reprise par plus d'une centaine de fois par différents artistes. Il y a eu U2, Rod Stewart, Michael Bublé, l'Orchestre symphonique d'Indianapolis et bien d'autres. Et ça l'a fait un malheur. Pourquoi? Parce que l'être humain carbure à l'amour. Et de chanter à l'époque où est-ce qu'il y avait une tension incroyable entre les États-Unis et le Vietnam, de chanter à ce moment-là « All you need is love », en d'autres mots, c'est pas le temps de faire la guerre, c'est le temps de s'aimer. Et ça a eu un impact tel que quand ils ont présenté la chanson, les Beatles, en 1967, eh bien, ça a été diffusé à l'écran, à la télévision, sur 5 continents. Il y a eu entre 400 et 700 millions de téléspectateurs qui entendaient cette chanson-là. Et cette chanson-là a fait résonner le monde entier, les 5 continents. Pourquoi? Parce que c'est un besoin réel. L'être humain a besoin de savoir, a besoin de sentir, a besoin de vivre, a besoin de vivre une réalité, c'est d'être aimé. C'est un besoin fondamental, tellement que Dieu a reconnu ce besoin fondamentalement, ce besoin fondamental-là, voilà, dis-je, qui a envoyé son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde. Il a manifesté que le besoin de l'être humain, le besoin de l'homme, le besoin de la femme, c'est d'être aimé. Mais moi, je vais manifester que c'est moi qui ai la source qui a besoin pour être aimé. Et c'est pour ça que j'envoie mon Fils. Jésus-Christ. La preuve que la majorité des gens carburent à l'amour, c'est que les plus grands succès musicaux sont des chansons d'amour. C'est pas pour rien que la plupart des compositeurs, la plupart des orchestres vont avoir dans leur répertoire une chanson d'amour. Au fait, si je vous pose la question, combien existe-t-il de chansons d'amour dans le monde? Est-ce que vous pouvez lancer un chiffre? Je ne sais pas, moi. 200 000? Intéressant. Combien? 100 millions. Bien là, ça serait fort un peu. Mais écoutez, Donna Halper a répondu à cette question-là. Elle a dit que cette question est impossible à répondre parce que l'amour est l'un des thèmes les plus courants de la musique. Ainsi, il y a des millions de chansons sur l'amour. C'est incroyable quand même. Des millions de chansons sur l'amour. Pourquoi? Parce que l'être humain carbure à l'amour. C'est un thème populaire, mais le problème, c'est que nous, les êtres humains, on cherche par des mauvais moyens, par des mauvaises façons d'aller chercher cet amour-là dont on a besoin. Certains, ça va vous surprendre que je dise ça, mais certains cherchent l'amour en se mariant. Vous allez dire, ben oui, mais Eric, viens pas me dire que tu es contre le mariage. Je suis pas en train de dire que je suis contre le mariage. Mais si je me marie pour être aimé, c'est sûr que ça ne durera pas longtemps avec le grand élan. Quand je me marie, c'est pour marier l'autre. Si je me marie pour être aimé, je suis en situation d'échec. C'est clair. Et c'est important de se marier parce que c'est l'engagement de deux personnes. Mais tu t'engages à quoi? À être aimé ou tu t'engages à aimer? Quand on dit pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas juste une belle phrase poétique, c'est une réalité. C'est un engagement véritablement pour le meilleur et pour le pire. Il y en a qui vont chercher à trouver l'amour en devenant parent. Encore une fois, est-ce que c'est mal de devenir parent? Non, c'est essentiel. Je veux dire. Dieu a dit, multipliez-vous. Il y en a qui c'est en faisant beaucoup d'argent, d'autres en voulant être désiré. D'autres, ça va être au travers une carrière, le paraître, la créativité, la notoriété, la supériorité, par le succès, par les possessions. Et on ferait n'importe quoi pour être aimé. Écoutez, il y a une chanson qui s'appelle « L'hymne à l'amour ». Pour ceux qui sont plus âgés, vous l'avez certainement entendu. Peut-être vos parents l'ont chanté. Peut-être votre mère l'a chanté. « L'hymne à l'amour » chanté par Édith Piaf. Et savez-vous quoi? Il y a un segment de cette chanson-là qui est vraiment percutant. Quand elle dit « J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. » Je ne pourrais pas jamais accoter sa voix, là. Mais, et c'est pour ça qu'elle dit « J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, c'est fort. Je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi. » Pour l'amour, hein, on ferait n'importe quoi. C'est un besoin fondamental, c'est un besoin qui est inhérent. Et ce n'est pas un effet de la chute de vouloir être aimé. Dieu nous a créés pour dépendre de son amour. On a été créés pour dépendre de son amour. Mais malheureusement, l'être humain, puisque ce besoin-là, dans sa rébellion contre Dieu, dans son hostilité contre Dieu, dans sa séparation avec Dieu, va le chercher ailleurs ou dans d'autres dieux. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est que sur le site de Canal Vie, Jacinthe Dompierre nous dit qu'il y a les top 10 de ce qui peut tuer l'amour. Et je trouvais ça intéressant de vous le partager parce que dans une relation de couple ou dans une famille, eh bien, on peut les identifier. Premièrement, le manque de liberté. Deuxièmement, les vêtements mous. Moi, je sais une fois là, que là, il faut que je fasse attention parce que une des choses qui est bien importante, messieurs, c'est vos sous-vêtements. Okay? Des fois, c'est bon de les recycler. Le manque de respect dans l'intimité, le manque de propreté, les ex, la rancœur, la routine, l'absence de compliments, les attentes différentes. Évidemment, l'agressivité, la violence. Et ça, ça peut tuer l'amour. Mais il y a une chose qui est importante, qui est nécessaire, qui est primordiale, qui est fondamentale. C'est que lorsqu'on a goûté à l'amour de Dieu, on ne peut plus rester indifférent. On en devient même dépendant. Parce que ça répond à notre besoin fondamental. Et c'est pour ça qu'on va voir au travers le texte de 1 Jean chapitre 4 une démonstration d'amour qui provient de Dieu. Et on va répondre à la question suivante. Pourquoi l'amour est-il si indispensable? Alors, on va se recueillir pour justement... Se recueillir, ça veut dire rassembler ses idées, se concentrer sur Dieu et le laisser, avoir un esprit disposé pour le laisser parler à notre cœur aujourd'hui au travers de sa parole. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est tellement riche. Même si ces textes ont été écrits il y a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'années, ta parole est encore aussi percutante aujourd'hui qu'elle l'a été au travers de tous les âges. Seigneur, merci de nous instruire, de nous révéler, de nous faire connaître qui tu es au travers de ta parole, et spécialement cette semaine, de nous démontrer, de nous manifester à chacun de nous d'une manière individuelle et personnelle, et aussi d'une manière collective en tant qu'Église ici, combien tu nous aimes, combien on est précieux pour toi, et que cet amour que tu vas nous démontrer puisse avoir un impact collectif dans nos milieux, dans notre communauté, afin que Jésus-Christ soit glorifié. On te remercie d'avance, Seigneur. Amen. Bien-aimés, 1 Jean 4, 7. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est important. Ce passage-là est vraiment important. Pourquoi? Parce que notre Église va arriver à une phase historique. On va implanter le 5 novembre les groupes Connexion. C'est dans l'histoire d'une Église, que ce soit dans l'histoire de l'Église universelle, dans le sens de l'Église de Jésus-Christ, ou que ce soit l'histoire de l'Église locale ou d'une Église qui est installée dans une région, il y a des points importants dans la vie de cette Église-là. Dans la vie de peu importe l'Église, il y a toujours des points importants, des points tournants qui sont commandés ou appelés de Dieu, provoqués de Dieu et qui font la différence au cours de son histoire. Et moi, je crois que l'instauration des groupes Connexion est un moment historique pour l'histoire de cette Église-là. Parce que ça va nous amener à un rendez-vous divin, un rendez-vous auquel Dieu nous appelle. De s'aimer les uns les autres. Au verset 7, ça nous dit que le commandement que le Seigneur adresse à ceux qui sont l'objet de son amour, les bien-aimés, c'est de continuellement, constamment, entretenir l'habitude de s'aimer inconditionnellement et réciproquement les uns les autres. Dieu nous appelle continuellement. L'appel de Dieu pour nos vies, c'est de continuellement, constamment, s'aimer réciproquement. C'est tout un défi, ça. C'est beau à dire, ça m'émerveille, moi, quand je lis ça. Je peux vous dire une affaire, c'est que dans ma vie, de mettre en pratique, c'est pas aussi merveilleux. Honnêtement, je recherche beaucoup plus à être aimé qu'à aimer. Mes actions, mes paroles, mes attitudes, mes pensées le démontrent, c'est clair, ça. Mais ce que Dieu veut, c'est de nous apprendre à s'aimer les uns les autres. C'est tout un défi. Tellement qu'au verset 8, le Saint-Esprit va nous dire un contraste. Là, il passe au verset 7, du blanc au verset 8, au noir. Il va dire, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est de s'aimer, c'est de continuellement s'aimer. Mais au verset 8, il va dire, « Celui qui n'aime pas n'a pas expérimenté Dieu, car Dieu est amour. » Wow! À chaque fois que je n'aime pas, à chaque fois que je manifeste un manque d'amour, il y a un aspect de Dieu que je n'ai pas connu, je n'ai pas goûté, je n'ai pas expérimenté. Il y a une dimension de l'amour de Dieu qui m'échappe. Et moi, quand je relis des passages comme ça, ça me remet en question en disant, « Wow! » Combien de mes interventions sont réellement motivées par l'amour? D'un amour authentique qui vient de Dieu. Écoutez, Paul, dans 1 Corinthiens 13, un texte qu'on lit dans la plupart des mariages auxquels j'ai assisté, les mariages chrétiens, on lit 1 Corinthiens 13. Parce que c'est le vrai hymne à l'amour. Là, ce n'est pas celui d'Édith Piaf là, qu'on met, c'est celui du Saint-Esprit, l'hymne à l'amour que Dieu donne à ses enfants. Puis on pourrait résumer ce passage-là d'un Corinthiens 13 par « L'amour ne cherche pas son intérêt ». Mais au début de ce passage-là, au début de ce chapitre-là, au verset 2 et 3 d'1 Corinthiens 13, Paul nous dit « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance », en d'autres mots, là, si je suis un Wikipédia de la Bible, et si même j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, en d'autres mots, il n'y a rien qui me fait peur, j'ai une confiance absolue, j'ai une assurance. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que ça veut dire que de rechercher à ce que Dieu me révèle sa parole, de rechercher la connaissance de Dieu, d'apprendre à faire croître ma foi, faire confiance davantage à Dieu, c'est mal. Non, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce n'est pas un contre l'autre. C'est que même si j'ai ça, si l'amour n'est pas présent, Dieu n'est pas présent, parce que Dieu est amour. Ce qu'il va faire, ce qu'il va nous amener à faire, doit être motivé par l'amour, pas nos intérêts personnels. Ça, c'est le défi de l'être humain. Prendre sa croix, c'est justement de renoncer à mes intérêts personnels pour les intérêts du royaume de Dieu. C'est un défi que chacun de nous, puis je m'inclus là-dedans à 100%, c'est un défi. Il dit au verset 3, « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres? » Moi, la première fois, j'ai lu ce passage-là, ce bout-là. Je dis, « Hey, moi, mais donner les biens aux pauvres, c'est de l'altruisme, c'est de faire du bien aux autres. » Mais Paul, il dit, « Même si je livre mon corps aux flancs, même si je suis un martyr, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. » Pourquoi? Parce que c'est impossible d'aimer d'une manière véritable comme Dieu veut qu'on aime, sans Dieu. C'est impossible. Je ne peux pas aimer de la façon que Dieu veut que j'aime sans Dieu. Parce qu'au meilleur de ce que je peux aimer, c'est quand ça me rapporte quelque chose. Dieu, lui, il aime ses ennemis. Lui, il fait du bien à ceux qui font du mal. Il redonne le bien, il reçoit le mal, il redonne le bien en échange. L'amour de Dieu est un amour qui vient d'un autre espace, d'un autre environnement, d'une autre dimension, d'une autre qualité. Et comment je peux faire pour voir si dans mes attitudes puis dans mon comportement, je suis animé de l'amour de Dieu? C'est quoi les repères? Bien, Jacques va nous dire dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 13, Jacques 3:13, que si je suis animé de l'amour de Dieu, ça va se manifester de manière assez claire. Parce que je peux être animé d'une sagesse qui vient d'en haut ou d'une sagesse qui vient d'en bas. En d'autres mots, l'essence qui m'anime, ce qui va être à l'origine de mon comportement, de mes attitudes, va démontrer si ça vient d'en haut ou ça vient d'en bas. Jacques 3:13 nous dit, « Lequel parmi vous est sage et intelligent ? Qu'il montre par son bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Déjà, c'est un repère important. Est-ce que quand je fais face à un défi, un dilemme, j'aborde le défi, le dilemme avec douceur et sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque, on pourrait dire accusatrice. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Et donc, ça, c'est contraire à l'amour, ça. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Et donc, ici, le mot « conciliant » est important. Parce qu'être conciliant, ça ne veut pas dire être mou. Ça veut dire être animé de la sagesse d'en haut. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est exactement cette atmosphère qu'on veut créer dans les groupes connexion. Une atmosphère d'accueil, une atmosphère où est-ce que les gens sentent qu'ils sont les bienvenus, une atmosphère où est-ce qu'on va prendre le temps d'écouter les gens, où est-ce qu'on ne sera pas toujours en train de reprendre les gens, mais qu'il y ait une atmosphère où est-ce qu'il y a une liberté, puis que parfois on va entendre des discours ou des façons de voir qui sont différentes, puis d'apprendre à accepter qu'il y a des façons de voir qui sont différentes. Vous savez, ce n'est pas parce que moi j'ai une façon de voir les choses qu'elle est la vérité absolue. Vous savez, moi par exemple, mes enfants ont été, tout leur parcours primaire, secondaire dans une école chrétienne. C'est un choix de famille qu'on a fait. Il y a des familles qui, eux, disent, non, nous, on va organiser la vie de famille pour faire l'école à la maison. D'autres vont dire, non, on va s'investir dans l'école, on va être sur le conseil d'établissement, on va s'impliquer au niveau des activités, puis les enfants vont aller à l'école publique. D'autres vont dire, non, on préfère avoir un cheminement académique plus poussé ou un tel contexte, on va opter pour l'école privée. C'est des choix. Puis chacun qui prend des décisions dans une direction a des raisons valables et discutables. Et ce n'est pas dans un groupe connexion le temps justement de voir, dire, bien, il faut que je convainque les autres qui pensent comme moi. Sinon, ça crée justement une atmosphère de rivalité, de tension. Et on peut exprimer justement pourquoi on opte pour telle vision ou telle façon de voir les choses, mais que ça se fasse comme dans un échange. Plutôt de dire, ah, ben moi, je ne suis pas d'accord. De dire, ah, je ne l'avais pas vu comme ça, c'est intéressant. Tu amènes des bons points. Puis de laisser ça comme ça, qu'il y ait une atmosphère où est-ce que les gens vont pouvoir se sentir libres de s'exprimer et de faire confiance à l'animateur qui va récupérer ça. Parce que le but des groupes connexion, c'est de s'encourager les uns les autres, sentir qu'on n'est pas les seuls à vivre ce qu'on vit. Parce que un des mensonges que notre ennemi, notre adversaire, le diable, veut nous faire croire, c'est qu'on est les seuls à vivre ce qu'on vit. Dans 1 Pierre chapitre 5, quand il parle que le diable est comparé à un lion rugissant qui cherche sa proie qui dévorer, normalement, comment ça fonctionne, la chasse, le lion, lui, il va commencer par grogner. Puis là, avez-vous déjà entendu un lion rugir? Le sol shake, ça branle. C'est incroyable. On dirait qu'il y a un tremblement de terre. C'est imposant. C'est un son d'autorité. Et là, les antilopes se mettent à courir. Ils ont peur, là. Mais celles qui sont isolées, c'est celles-là que... Parce que le lion, lui, ce qu'il fait, c'est pas lui qui chasse. C'est pas le mâle qui chasse. C'est les femelles. Il envoie ses émissaires. Puis ils vont... La plupart du temps, c'est ceux qui boitent, ceux qui sont isolés, les plus faibles. Et justement, l'ennemi veut nous isoler pour nous faire croire que hey, oh, je ne peux pas me présenter à l'église, ils ne m'accepteront pas, ils vont me juger. Je suis tout seul, ils ne comprendront pas ce que je vis. Quand on se met à partager à des gens, on se rend compte que ouais, on vit pas mal toute la même chose, mais dans un contexte différent. Il n'y a personne qui peut dire que spirituellement est au-dessus de ses affaires. C'est impossible. On est tous des dépendants de Dieu. On est tous dépendants de Dieu. Certains dans un domaine, d'autres dans d'autres, mais on est tous des dépendants de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que dans une église, dans une communauté, on peut recevoir du support, du soutien. Puis on a besoin, spécialement à travers les groupes connexion, puisqu'on est une église qui est quand même un certain nombre, où est-ce qu'on n'arrive pas à se connaître les uns les autres, se retrouver dans un plus petit groupe de 20, 30, 40, puis apprendre à se connaître, puis apprendre à s'encourager, puis apprendre à s'entraider. Des gens vont venir pour recevoir, mais aussi pour donner. Mais pour pouvoir aimer, il y a un prérequis. Un prérequis. Goûter puis expérimenter l'amour de Dieu pour sa propre vie. Si tu regardes ton parcours ou si quelqu'un te demanderait, peux-tu m'expliquer comment tu es venu à la foi? Écoutez, j'ai eu le privilège un jour dans une commission parlementaire. Il y avait Michel Habib. Mathieu Vincent puis moi, on présentait un mémoire sur la question de l'euthanasie. Et il y a un député qui était là, puis il dit, « Pouvez-vous me dire, vous qui êtes Québécois, comment ça se fait que vous êtes protestant? Qu'est-ce qui vous a amené à la foi protestante? » Et les trois, on a témoigné de notre parcours. Qu'est-ce qui nous a amené à croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur? C'est enregistré dans les annales historiques. C'est extraordinaire. Moi, j'étais tellement fier. Gloire à Dieu. Notre témoignage est enregistré. C'est extraordinaire. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a tous un témoignage. Comment le Seigneur est venu nous sauver. Mais tu sais, est-ce que tu es rendu à un point que ce que tu partages de ton témoignage, c'est ce que tu as expérimenté il y a 5, il y a 10, il y a 2 ans, 1 an? Est-ce que tu es capable de témoigner de ce que Dieu a fait récemment dans ta vie? Oui, c'est vrai que des fois, il y a des temps de silence où est-ce que Dieu, c'est comme si c'est tranquille, on continue à lire, à prier, on va à l'église, mais tu sais, Mais ça, il y a des saisons. Ça, je comprends ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que récemment Dieu t'a visité? Puis si ce n'est pas le cas, bien, frappe à sa porte. Dis, hey, là, ce serait un temps, j'ai besoin d'être rafraîchi, j'ai besoin d'être visité. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fin de semaine, j'ai été visité par Dieu. Puis j'ai réalisé, je dis, waouh, ça faisait un bout que j'avais pas été visité comme ça de la part de Dieu. Puis ça m'a tellement fait du bien. C'était parce que vendredi et samedi, Alexandre Farley, Dominique King et moi, on a assisté à une conférence de Jeff Vandersteld qui nous expliquait comment mettre sur pied des communautés missionnelles. Et moi, j'étais allé là pour voir, dire, qu'est-ce que je peux apprendre là-dedans qui pourrait nous aider dans les groupes connexion. Et Dominique King, au niveau de la jeunesse, et puis Alexandre, eh bien, évidemment, Alexandre, il est tellement plein de sphères de l'Église, c'est important qu'il soit là. Tu sais, puis, donc, vendredi, samedi. Vendredi soir, une fois que tout est fini, on rencontre Mathieu Giguère, qui était avec Marcel, puis on parle, puis là, on se dit, bon, là, on est dehors, dans plein sa rue Sainte-Catherine, bon, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y avait des gars qui avaient le goût d'aller manger de la poutine. Et moi, je dis, hey, les gars, je veux vous amener à un endroit, c'est vraiment spécial. C'est sur le bord du fleuve, c'est sur l'île Sainte-Hélène. On voit le pont Jacques-Cartier à droite. Après ça, un petit peu plus à gauche, on voit la tour de Radio-Canada. Puis un peu plus à gauche, là, on voit la grande roue qui est au port de Montréal, qui est illuminée, les bâtiments comme ça, le Mont-Royal. Puis là, les reflets de la lumière sur l'eau, c'est extraordinaire. Là, Alex, il me regarde, il dit, « Coudon, tu t'en vas-tu fumer un joint là-bas? Tu as bien de l'air contemplatif. C'est quoi qui se passe? » Non, je dis, « Écoutez, moi, c'était... » Quand j'habitais à Montréal, c'était un lieu, j'allais m'isoler, j'ai écrit un poème, là, j'ai prié là. C'est un lieu, le lieu, il n'est pas magique, c'est pas comme si tu vas là, tu mets le pied, la présence de Dieu apparaît. Mais c'est un lieu où est-ce que quand je vais là, mon cœur est disposé à parler avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Et je m'en vais là, et là je commence à parler au Seigneur des défis. Ça bouscule. Quand le Seigneur parle, là, des fois ça fait du bien, mais d'autres fois ça bouscule. Tu sais, il travaille. Il nous agrandit, nous élargit. Parce que si tout ce que Dieu nous demande à faire, on est capable de le faire, mais on n'a pas besoin de dépendre de lui. On est capable. On est apte. Je n'ai pas besoin de Dieu. Mais normalement, quand Dieu nous appelle, Dieu nous demande d'aller dans la direction, c'est parce qu'il manque au moins un ingrédient, puis c'est lui qui l'a. Parce que c'est de lui. C'est lui qui manque dans l'équation. Et j'ouvrais mon cœur, j'y faisais part de mon fardeau. Et puis le lendemain, on est samedi, on s'en va à l'événement. Je suis dans une attitude de recevoir. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. C'est pas toujours facile, mais vas-y, Seigneur. Et là, Jeff Vandersteel, je pense que j'ai jamais parlé de ma vie personnellement. Tu sais, j'ai salué, bonjour. Alex, Dominique, Mathieu, Marcel n'ont pas voulu venir. Ils ont voulu aller manger de la poutine, eux autres. Puis du porc effiloché. Moi, j'ai décidé d'aller sur le bord de l'eau. Et j'arrive le samedi, personne ne sait de ce que j'ai parlé au Seigneur. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de micro caché, rien. Là. Puis Jeff parle anglais, même s'il y avait eu un micro, disons que je suis paranoïaque, même s'il y avait eu un micro, il n'aurait rien compris. Fait que j'arrive, Jeff dit plein d'affaires, c'est extraordinaire. J'ai pris, écoutez, en deux jours, j'ai pris 22 pages de notes, là, juste pour vous dire, là. Ça rentrait. Là. Puis là, à un moment donné, pow! Il commence à parler, puis c'était la réponse de Dieu. Dieu est en train d'enlever le fardeau. J'y communiquais mon fardeau la veille, puis c'était en train de dire, gars, là, Éric, c'est toi qui s'est imposé ce fardeau-là. Ce fardeau-là ne vient pas de moi. Wow! J'ai dit, il y a juste Dieu qui peut m'avoir entendu. Il y a juste Dieu qui savait, c'est moi qui ai parlé, puis je sais, c'est sa réponse, c'est sa voix, c'est clair. Et ça me faisait penser au psaume 116, quand le psalmiste disait, il dit, c'est écrit dans le psaume 116:1, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Et j'aime l'Éternel parce qu'il entend. Ma voix. Dieu va manifester son amour envers toi peut-être d'une manière différente. Tu vas être touché par Dieu peut-être d'une autre façon, puis fort probablement d'une autre façon parce qu'on est tout unique. Puis c'est ça la beauté de l'amour de Dieu, c'est qu'être unique parce qu'on est unique, parce qu'il connecte avec nous d'une manière unique. Mais est-ce que tu as dans ton témoignage récemment vécu une expérience comme ça où est-ce que tu dis, wow, Dieu m'a touché par son amour? Si ce n'est pas le cas, frappe à sa porte, dis, hey, papa, j'en ai besoin en ce moment. J'ai besoin d'être rafraîchi. Puis pas juste pour toi. Oui, pour toi, mais aussi pour que tu puisses le communiquer à d'autres, pour que d'autres puissent être initiés, éveillés, dire, « Hey, wow, Dieu t'aime, mais tu t'en prives. » Mais il veut te le révéler. On l'a vu au chapitre 3, verset 1. Dieu veut qu'on voit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il veut le faire. Et c'est ça. Et une fois que l'amour nous touche, on peut pas devenir insensible aux autres. Oui, on a des limites, on a des limitations, il y a des obstacles. Et quand on fait face à ces limites, à ces murs-là, qu'est-ce que ça produit quand on est touché par l'amour de Dieu? Ça nous amène à retourner vers lui et dire, hey, « Seigneur, fais quelque chose. Il faut qu'il se passe de quoi, là. Je ne peux pas y arriver par moi-même, je ne peux pas y arriver seul. » Et c'est pour ça que Dieu Ah, dans sa sagesse mise sur pied, sa stratégie pour rejoindre le monde par son amour, l'Église. Et donc, celui qui n'aime pas, comme on a vu au verset 8, n'a pas connu Dieu. Il a peut-être entendu parler de Dieu, mais ne connaît pas Dieu. Il expérimente peut-être quelque chose de la part de Dieu, mais d'un Dieu selon sa conception. Mais ce n'est pas ce qu'il expérimente, ce n'est pas selon le Dieu de la Bible, parce que le Dieu de la Bible, ce qu'il produit dans notre cœur, c'est de l'amour pour les autres. Celui qui a connu Dieu va aimer. Puis celui qui n'a pas connu Dieu n'aime pas. Au verset 10, il va dire, « Dans cet amour, celui qu'on a expérimenté auprès de Dieu, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu à un point tel que nous possédons de l'amour pour lui. » Mais dans le fait qu'il a marqué l'histoire en envoyant son fils à un moment choisi comme victime expiatoire ou pour apaiser la colère de Dieu. Je ne peux pas aimer Dieu par moi-même. C'est l'amour de Dieu qui fait que je ne peux pas faire autrement que retourner à lui parce qu'il me manifeste qu'il m'aime, que je suis précieux pour lui, j'ai de la valeur pour lui. Mais en moi-même, la nature humaine, elle est hostile à Dieu, rebelle à Dieu. Mais il nous l'a montré cet amour en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Et ça, c'est intéressant parce que cet amour-là qui vient de Dieu, il dit qu'il a envoyé son Fils à un moment choisi comme victime expiatoire. Levez la main ceux que la semaine passée, vous avez mentionné dans une conversation au moins 3 fois le mot expiatoire. 2 fois, par applaudissement, ceux qui l'ont utilisé 1 fois la semaine dernière, le mot expiatoire. Ouais, j'entends pas d'applaudissement. Vous savez, le mot expiatoire, c'était un mot qui était utilisé par les païens, les non-juifs, les non-chrétiens. C'était un mot profane. C'était les idolâtres, ceux qui offraient des sacrifices à un dieu étranger pour apaiser la colère de ce dieu-là. Par exemple, les adorateurs de Moloch, offraient leur premier-né et ils faisaient brûler vivant dans le feu. Donc, c'était pour apaiser la colère de Moloch. C'était un rituel païen. Alors, Jean, dans ce cas-ci, mais Paul aussi va utiliser cette expression-là, victime expiatoire, c'était utilisé dans les cultes païens. Et là, il importe ça dans leur vocabulaire pour nous montrer que, comme les païens cherchent à apaiser la colère de Dieu, en offrant quelque chose, mais ici, Jésus-Christ, c'est pas toi qui as offert Jésus, c'est lui qui s'est offert. Et ce qui a apaisé de Dieu ne vient pas de toi, vient de lui-même. Lui-même a pourvu à ce qui apaise la colère de Dieu. C'est extraordinaire. Ça nous enlève un fardeau. Et donc, ça nous montre aussi la grandeur de son amour, que même quand on était ses ennemis, Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu, ça a un impact tel. Ça a produit un réveil en Samarie. La femme samaritaine, elle a été touchée par l'amour de Dieu. De la façon qu'elle a été abordée par Jésus, Dieu n'a pas cherché à la mettre en règle, alors qu'elle avait eu 5 maris, puis le 5e avec lequel elle était, ce n'était même pas son mari. Il vivait en concubinage, il n'était pas marié. Et Dieu, comment il l'a abordé? Avec douceur, avec sensibilité. Ça l'a produit un fruit extraordinaire. Puis c'est ça qu'on veut dans les groupes connexion, c'est de découvrir puis d'apprendre. Puis on va faire des erreurs, mais c'est dans cette direction-là qu'on veut aller en disant comment on peut connaître la sagesse de Dieu et pas arriver comme un bulldozer, pas arriver comme dans une attitude qui produit un zèle amer, qui produit une mauvaise atmosphère. La femme adultère, comment Jésus s'est pris avec tellement de délicatesse, avec doigté. Zachée. Moi, je lis le texte, puis je vois aucunement que Jésus reprend Zachée. Mais il se sent tellement aimé, il se sent tellement accueilli. Il y a une libération. L'amour de Dieu, c'est libérateur. Il est prêt à rembourser tous ceux qui ont volé, puis même plus. C'est l'effet de l'amour de Dieu dans sa vie. Et si justement, en tant qu'Église, on répond à cet appel-là d'aimer les gens, on va rencontrer des gens parce que le besoin de l'être humain, les Beatles l'ont chanté, c'est « All you need is love ». Mais on est humain, on a nos limites. On ne jouera pas à Dieu. On ne fera pas en semblant qu'on est capable d'aimer comme Dieu aime. Mais si on peut simplement découvrir davantage l'amour de Dieu pour nos vies, puis grandir là-dedans, déjà, ça va être un pas de l'avant. Moi, écoutez, quand j'étais jeune chrétien, j'aimais ça être extravagant. J'avais besoin de tout ça pour me démarquer. Je donne un exemple. Si j'étais invité dans une fête où est-ce qu'il fallait porter un tuxedo noir avec une chemise blanche, ben moi, je pouvais arriver avec un tuxedo rose, une chemise bleu poudre, puis une boucle, un nœud papillon jaune. Là, puis quand je suis arrivé à l'église, j'avais un peu ce style-là, puis il n'y a personne qui a essayé de me remettre à ma place en disant, en tant que chrétien, tu ne devrais pas t'habiller comme ça, puis tu dois t'habiller à la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui m'a fait ce sermon-là. À un moment donné, en lisant la parole de Dieu, en priant Dieu, en parlant avec Dieu, en me laissant toucher par l'amour de Dieu, en étant dans l'Église, ce besoin-là est disparu tranquillement. Disons qu'aujourd'hui, il n'y a plus la même intensité. Dieu a fait son œuvre. Au verset 11, il nous dit, « À vous qui êtes l'objet de l'amour de Dieu, puisque de cette manière, dans cette mesure, Dieu nous a aimés aussi profondément, nous sommes moralement redevables de nous aimer continuellement. » En d'autres mots, Jean est en train de dire, on est en dette de s'aimer, on est dans l'obligation morale de remettre aux autres l'amour de Dieu qu'on a reçu. C'est ce qu'on veut vivre dans les groupes connexion. Et peut-être toi, dans les groupes connexion, eh bien, tu vas avoir... tu vas pouvoir te donner d'une manière, comment je te dirais ça, différente d'un autre. On a besoin de déclencheurs, ceux qui vont inviter les gens à intégrer le groupe et à sentir qu'ils sont les bienvenus. On a besoin des connecteurs, ceux qui vont dire, « Hey, mais semble que toi, là, tu devrais rencontrer un tel. Vous avez des atomes crochus, des intérêts communs. » On a besoin des encourageurs, ceux qui vont être là pour donner du support, donner une parole à propos. On a besoin des soigneurs, ceux qui vont prendre le temps d'écouter. Des serveurs, ceux qui vont être là pour répondre à des besoins ponctuels, des directeurs, ceux qui vont diriger, organiser, planifier, des pourvoyeurs, ceux qui vont contribuer par des dons à rencontrer des besoins matériels. Puis ça, c'est dans le but de s'édifier, de s'encourager. On veut se donner
un environnement accueillant, sans jugement, où est-ce que la parole de Dieu va être le déclencheur de ces groupes-là. Ça va commencer le 5 novembre, c'est bientôt à 10h30. Et on veut que Christ soit au centre. Et comment ça va se dérouler, les groupes connexion? Eh bien, on va devoir changer l'horaire. C'est que la première célébration va demeurer à 9h, mais au lieu d'être jusqu'à 10h30, elle va être jusqu'à 10h15. Les annonces vont se faire dans les groupes connexion. Le message va être un peu plus court. Et ça va nous permettre, à ce moment-là, dans ces 15 minutes-là, de quitter ici puis se rendre dans les locaux au deuxième étage. Et pendant ce temps-là, les jeunes vont être ici dans l'auditorium. Et là, ça va être un temps pour que les jeunes s'éclatent avec Olivier Mayette et Mathieu Farley, qui ont des idées de fou pour les jeunes. Puis on veut vraiment qu'ils s'éclatent, puis qu'il y ait du bon temps, qu'ils s'amusent, puis en même temps, dans un environnement chrétien où est-ce que les valeurs de l'Évangile vont être là, mais adaptées à leur âge pour qu'ils vivent vraiment un bon temps. Puis il va y avoir de l'animation, il va y avoir des personnages, il va y avoir toutes sortes de choses. Et je vais laisser le soin dans les prochaines semaines à Olivier vous révéler le nom de ce groupe-là. Et donc, pendant que les adultes vont être dans les groupes connexion, donc de 10h30 à 11h30, eh bien, eux vont être ici, puis ils vont vivre une expérience extraordinaire. Et ce qu'on veut pendant ce temps-là, c'est que on puisse ensemble développer des liens. Et c'est pour ça que 10h15, pendant que c'est fini ici jusqu'à 10h30, on s'en va dans le local pour échanger, prendre un café ensemble. À 10h30, l'animateur salue les gens, souhaite la bienvenue aux personnes qui sont là, fait sentir aux gens qui sont les bienvenus dans le groupe. Et là, après ça, il y a un 15 minutes d'enseignement. Ça, c'est comme un déclencheur. Et l'animateur, qui est le responsable du groupe, revient et fait échanger les gens pour qu'il puisse y avoir du vécu puis de l'expérience, pour que chacun puisse se sentir entouré et voir c'est quoi les besoins les uns des autres. Et par la suite, eh bien, le berger va arriver pour prendre les requêtes de prière, prier avec le groupe. Le berger qui ne sera pas l'animateur, qui ne sera pas l'enseignant, c'est une autre personne qui va avoir des agents d'accompagnement avec lui. Pourquoi? Parce que on veut que dans chaque groupe, qu'il y ait un accompagnateur pour 10 personnes, pour que personne ne se sente isolé. Si quelqu'un vit quelque chose de difficile durant la semaine, mais qu'il ne soit pas oublié, qu'il ne soit pas ignoré. On veut que ces groupes connexions-là, il n'y ait pas juste une vie qui se développe le dimanche, puis c'est à la semaine prochaine, mais que durant la semaine, que les gens puissent sentir qu'ils sont connectés, justement. Alors, c'est pas comme les groupes d'école du dimanche, mais c'est vraiment une vie de communauté. Et en dernier, il va y avoir un agent de rayonnement. Ça, c'est la personne que le groupe va avoir nommée pour être en charge d'un projet qui va rayonner dans la communauté. Ça peut être un projet que le groupe Connexion dit, ben nous, on va appuyer, par exemple, un projet existant à l'Église, comme par exemple les sacs pour les enfants qui vont à l'école. Ça peut être les paniers de Noël. Ça peut être comme Dominique va vous en parler tout à l'heure, la course du sentier. Eh bien, le groupe Connexion dit, hey, nous, on va s'accrocher à un moyen de rayonnement pour que la communauté, la région de l'Outaouais puisse voir qu'on a à cœur notre région, puis on veut faire du bien. Dieu nous a donné, puis Dieu veut qu'on puisse manifester notre amour à ces gens-là, notre support, notre soutien. Et c'est pour ça qu'il va y avoir 3 groupes. Et le thème de départ, ce n'est pas nécessairement un thème qui va durer toute la vie. C'est juste un thème de départ qui va durer quelques semaines. Et le groupe qui est de responsables vont chercher au cours des semaines à voir ce soit quoi le prochain thème. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre, par exemple, comme dans le groupe 1, il y a des jours où l'on ne s'aime plus, que tout le long dans le groupe Connexion, on va parler des couples. Ça se peut que après, on parle de finances, ça se peut qu'on parle de d'autres choses par la suite. Mais par contre, vous allez dire, oui, mais moi, on s'aime, on a vécu nos crises comme couple, c'est passé ça. Mais justement, tu peux être là pour accompagner des gens, ou aider ou partager ton expérience à des couples qui, eux, ont dit, ah, mais on vit des tensions en ce moment. Puis toi, tu peux être là pour juste dire, hey, c'est normal, persévère, ou tiens, on va aller prendre un café ensemble, puis on va en jaser. Et donc, Joël Delamarre va être le responsable et l'animateur. Pierre Mayette va enseigner, puis Sylvain Plouffe va être le berger de ce groupe-là. Dans le groupe 2, comment élever des jeunes sans virer fou? Eh bien, c'est Jean Destin qui va être l'animateur et le responsable. Alexandre Farley va enseigner et Flaubert Camteau va être le berger du groupe. Et dans le groupe 3, c'est les Trésors de la Bible avec Robert Montgomery comme animateur et responsable, Jean-Sébastien Roy comme enseignant et Gilles Farley comme berger. Et donc, vous allez taper dans les prochaines semaines, puis on va vous donner les renseignements. J'essaie de donner l'essentiel, mais dans les prochaines semaines, on va donner plus de détails. Vous allez pouvoir choisir un groupe à ce moment-là. Puis, je comprends qu'il y a certains qui vont dire, hey, « c'est pas une saison de ma vie, c'est pas pour moi. » C'est correct, ça. Mais pour les autres, je vous dis, osez expérimenter. Osez vous aventurer. Osez aller donner le peu que le Seigneur vous a donné, de le donner. Puis vous allez expérimenter ce que la parole de Dieu nous dit, il y a plus de joie à donner que recevoir. Jacques 2 nous révèle la volonté de Dieu sous la nouvelle alliance. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Aimer son prochain comme soi-même, c'est la volonté de Dieu. Le commandement, ce n'est pas de s'aimer soi-même, c'est d'aimer l'autre. Et dans quelle mesure? Comme nous-mêmes. Donc, d'aimer l'autre aussi fort, aussi puissamment qu'on s'aime soi-même. Et donc, c'est pour ça que ce qu'on veut dans les groupes connexion, c'est être connecté avec Dieu, être connecté avec les autres, puis être connecté avec la communauté. En conclusion, pourquoi l'amour est si indispensable? Parce que Dieu a manifesté son amour. On le voit au verset 9 dans 1 Jean 4. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Et également pour répondre aux besoins des uns des autres. Parce qu'on va reconnaître qui sont les disciples de Jésus-Christ par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. Jean nous dit dans Jean 13. Et c'est un défi. Et c'est un défi qui est important en tant qu'Église parce que si vous lisez l'Apocalypse au chapitre 2, l'Église d'Éphèse était une Église qui était sur la coche. Mais Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as mis de côté ton premier amour. Et c'est important qu'en tant qu'Église, qu'on puisse manifester l'amour de Dieu les uns pour les autres. Et ça va être un laboratoire pour l'apprendre. Laboratoire pour l'apprendre dans notre propre vie, l'amour de Dieu pour nous, et comment la communiquer aux autres. Parce que dans Tite, chapitre 3, au verset 14, Tite 3, 14, il dit, « Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Et quand je reçois l'amour de Dieu et je le donne ce que j'ai reçu, eh bien, c'est sûr que ça va produire du fruit, ça répond à un besoin. » Et en terminant, Martin Luther King avait dit, « Moi, j'ai opté pour l'amour. » Parce que la haine est un fardeau trop lourd à porter. J'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. Et pendant ce temps-là, nous, on va se recueillir, on va prier pour demander à Dieu, Seigneur, j'aimerais ça que tu me révèles encore combien je suis précieux pour toi et combien tu m'aimes. Et j'aimerais ça que tu me montres quelle est ma place dans les groupes connexion. Comment je peux être un instrument utile pour d'autres. Et de laisser Dieu vous parler là-dessus, maintenant et cette semaine. Recueillons-nous, prions. Seigneur, merci pour ce temps qu'on est ensemble. Merci de nous apprendre à être connectés avec toi, connectés avec les autres, connectés avec la communauté de Gatineau. Parce que c'est vrai que ce qu'on a besoin, c'est de ton amour. Quand John Lennon chantait ça, « All you need is love », il ne réalisait pas que l'amour que la population avait besoin à ce moment-là, c'était du tien. Mais nous, tu nous as donné ta parole, tu nous as révélé que c'est ton amour qui produit une différence. L'apôtre Paul le dit, « L'amour de Christ me presse. » Seigneur, on a besoin de ton amour.
Et il y a des gens autour de nous qui ont besoin de ton amour. Et on te demande qu'on puisse être des instruments pour communiquer ton amour, malgré nos limites, malgré nos manquements, malgré nos fautes, malgré nos incompétences, malgré nos maladresses, malgré nos manques, Seigneur. Puisses-tu nous faire l'honneur et la grâce en même temps d'être des instruments pour manifester ton amour, celui qui vient de toi, un amour authentique, véritable, sans hypocrisie, aux gens qui prendront part à ces groupes connexion, aux gens qui vont joindre à cette église, aux gens que tu as placés sur notre route, aux gens que tu veux toucher, ici dans la région et partout à travers le monde. Je te le demande dans le nom de Jésus, pour la gloire de Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.